Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nous sommes le 3 janvier 2022 dans la ville de Slaughter, en Louisiane. Une femme de 64 ans qui appelle le 911. L'opérateur répond et la femme lui dit qu'elle vient de trouver sa fille de 36 ans morte sur le sofa. Aujourd'hui, je m'apprête à vous raconter l'une des affaires les plus troublantes que j'ai lues, que j'ai entendues depuis longtemps. Ça m'a tellement rentré dedans que j'ai dû prendre des pauses durant mes recherches. Préparez-vous bien mentalement là, pour cette vidéo et restez là. Allô Internet! Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire des plus, comme j'ai dit, là, probablement dans les plus troublantes, tristes et dégoûtantes. Et je lisais ça puis j'étais comme, c'est tellement récent, là, c'est en 2022. C'est pas comme si c'était arrivé dans les années 80. Tu sais, les années 80, c'était une autre mentalité, une autre culture, une autre mentalité. On est plus dans un peu, pas de l'individualisme, mais tu sais, tu veux pas te mêler de tes affaires. Mais non, c'est arrivé, Chris, il y a 2 ans. C'est ça le plus troublant, je crois. Je vous recommande, là, pour de vrai, je le dis parfois, là, mais là, je vous conseille vraiment de ne pas manger en regardant cette vidéo. Pas boire. En tout cas, moi, je sais pas, ça m'a vraiment profondément dégoûtée. Ouais. Genre, dans la journée de mes recherches, j'ai pas full mangé, là. En tout cas. Écoutez le podcast Over and Out. Comme j'ai dit plus tôt, l'affaire prend place dans la ville de Slaughter, en Louisiane, ce qui est quand même ironique quand on connaît l'histoire. En fait, Slaughter, en anglais, c'est comme abattage, dans le fond, le terme, là, abattre. C'est très ironique là, avec l'histoire qu'on va entendre aujourd'hui. Donc, j'aimerais vraiment commencer par vous parler, comme d'habitude, de la victime, de sa personnalité, de ses qualités, ses défauts, ses hobbies, son passé. Mais malheureusement, dans cette histoire-là, il n'y a pas beaucoup d'informations. Là. J'ai vraiment cherché pour mettre l'emphase sur la victime, justement, mais j'ai rien trouvé. Fait qu'on va parler surtout des événements, puis bon, on peut découvrir quand même la victime à travers ce qui s'est passé, vous allez voir. Donc, Lacey Ellen Fletcher avait 36 ans au moment des faits. Elle vivait avec ses parents Shayla et Clay Fletcher. Donc, de ce que j'ai lu, Lacey était sur le spectre de l'autisme. Et plus jeune à l'école, ben, ses parents ont décidé de lui faire l'école à la maison, car tristement, les autres enfants de son école, ben, ils l'intimidaient puis ils se moquaient d'elle. Donc, quand elle s'est fait retirer de l'école, elle avait environ 14-15 ans. Je sais pas exactement où sur le spectre de l'autisme elle se trouvait. Donc il y a des cas un petit peu plus sévères, il y en a d'autres qui sont autistes, mais genre Louis T, l'humoriste, il est autiste, mais il a une vie parfaitement régulière, puis tu sais, tout va bien, mais il y en a d'autres que c'est des cas plus sévères, là. Donc les témoignages sont assez contradictoires dans le cas de Lacey Fletcher. Donc j'ai fait quelques recherches assez rapides pour mieux comprendre justement les niveaux, les degrés d'autisme sur le spectre. Je connaissais pas beaucoup ça, donc par exemple sur le site autisme.com, ça explique bien les niveaux de sévérité de l'autisme, donc c'est assez clair. Niveau 1, tu nécessites un soutien. Niveau 2, tu nécessites un soutien important. Puis niveau 3, nécessite un soutien très important. Donc c'est pas super explicatif, mais on comprend, bon, un peu niveau 1 à 3. Au niveau 3, la personne va requérir un soutien probablement à domicile ou même parfois être placé dans un centre. J'imagine que c'est vraiment du cas par cas. Niveau 1, la personne va très bien fonctionner en société, très bien même réussir dans la vie. Mais encore là, ça dépend justement des cas. Il y en a même au niveau 1, ça doit changer d'une personne à l'autre. Pour les 6, ça semble être niveau 2-3. Donc, un niveau quand même sévère, mais ses camarades de classe, ses anciens camarades de classe, disent d'elle que c'était une fille très, très, très intelligente. Il y a une connaissance là, qui a parlé puis qui disait que Lacey est assez immature pour son âge, parce que selon elle, ben Lacey, elle aimait vraiment Disney. Ce qui n'a pas vraiment rapport, là, parce qu'il y a plein d'adultes qui trippent sur Disney, puis ça fait pas d'eux des gens immatures. Mais d'autres connaissants, justement, disaient « Ah, mais c'est parce que Lacey, elle était Asperger, donc elle avait une genre d'obsession par Disney, puis elle connaissait vraiment tous les faits sur Disney, justement. » Mais ils disaient d'elle qu'elle était très brillante et elle était verbale, donc elle avait de la facilité à s'exprimer, à dire ce qu'elle pensait, ses émotions aussi. Et avant qu'elle soit retirée de l'école justement pour intimidation, elle allait à une école normale, là. Elle allait pas à une école spécialisée. Donc moi j'imagine que ça devait pas être si sévère que ça, là. Mais ses parents, eux, ils disent que Lacey souffrait d'une anxiété sociale très 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 sévère. On sait pas. Avec ce qu'on va lire, c'est très possible, mais aussi c'est très possible que ses parents aient menti, parce que vous allez voir, ils sont loin d'être une référence.
She was a sweet girl. The few times that I talked to her, you know. But like I said, she didn't come out a lot.
Les voisins, eux, décrivent Lacey comme une enfant normale, une enfant le fun, mais qu'à partir de 14 ans, justement, elle a commencé à beaucoup s'isoler. J'ai aussi lu que des symptômes d'autisme peuvent devenir plus sévères quand la personne est en dépression. Donc ça va aggraver les symptômes ou ben, en fait les traits qui sont déjà là. Là, je parle vraiment comme à travers mon chapeau, j'ai fait des recherches dessus, mais ceux qui me suivent, il y en a sûrement qui sont autistes là, qui me suivent, vous pouvez en parler dans les commentaires si vous voulez, là, parler de votre expérience, puis peut-être commenter ce que je dis, si j'ai tout faux ou tout vrai. Mais tu sais, c'est vraiment, j'ai lu des témoignages d'autistes, j'ai lu sur des sites plus professionnels, fait que c'est vraiment, c'est ça. C'est juste pour vous mettre en contexte aussi, ça résume pas toute la situation. Il y a quand même Dr. Hope, qui est un psychologue qui a vu Lacey au cours de 12 sessions différentes entre 2000 et 2002. Et lui, il dit là, qu'effectivement, elle souffre d'autisme, et qu'elle a un QI plus bas que la moyenne. En 2010, les parents de Lacey sont retournés voir le Dr. Hope parce qu'il y avait besoin d'aide. Lacey refusait maintenant de sortir de la maison et même de sortir du salon à cause de son anxiété, ce qui ressemble beaucoup à de l'anxiété sévère. À ce moment-là, en 2010 justement, ça n'allait plus du tout. Lacey refusait de sortir du sofa, de sortir du salon. Elle n'allait même plus aux toilettes. Quand elle avait envie, elle urinait et déféquait sur une serviette à côté du sofa. Elle avait 24 ans à ce moment-là et ses parents, ben, ils lui amenaient des repas sur le sofa où elle mangeait. Elle refusait de prendre une douche, de se laver les cheveux, le corps. C'était ses parents qui le faisaient, j'imagine encore une fois, dans le sofa parce qu'elle voulait plus sortir du salon. Donc c'est assez terrible, j'imagine que ça doit être extrêmement difficile pour les parents, pour Shayla et Clay, parce que t'es complètement perdu, t'as jamais vécu une situation comme ça, tu sais pas quoi faire, tu veux pas pousser ta fille à faire quelque chose qu'elle ne veut pas, qui l'effraie. Mais en même temps, tu peux pas la laisser sur le sofa, là. Dr. Hope, justement, ben lui, il leur a fortement conseillé d'hospitaliser Lacey, qui a même dit là qu'il les aiderait dans tout le processus d'hospitalisation, de la sortir de là. Puis je pense que ça prend l'accord justement d'un psychologue, d'un psychiatre qualifié pour hospitaliser un patient là, contre son gré. Mais après ça, les parents sont jamais retournés voir le Dr. Hope et lui, il a pas essayé à les joindre plus qu'il faut. Avec du recul, aujourd'hui, le docteur doit s'en vouloir terriblement. Parce que c'était une situation très, très sévère, puis il a pas... Tu sais, oui, durant la rencontre, il a donné des conseils aux parents, il leur a offert son aide, mais après ça, quand il a pas eu de nouvelles à nouveau, il a pas cherché à les joindre davantage. Là. Mais c'est assez fou de voir le switch, là, très, très sévère, très brutal qui s'est passé quand elle avait 14 ans, là, ou 24 ans, même en 2010. Tu sais, Lacey, c'était une fille qui était considérée comme... high functioning. Donc, elle allait à l'école, elle avait des amis, elle s'exprimait bien, elle faisait même partie d'une équipe sportive. Et là, graduellement, là, elle était même plus capable d'aller aux toilettes ou de juste de sortir du sofa. Donc, maintenant qu'on connaît la situation, qu'est-ce qui s'est passé avant les événements, passons aux événements du 3 janvier 2022. Dès très tôt le matin, la police se rend chez la famille Fletcher pour découvrir une scène d'horreur. Honnêtement, durant mes recherches, je me suis demandé à quel point j'allais entrer en détail dans l'histoire, à quel point j'allais vous donner les détails graphiques. Puis je me disais, OK, est-ce que ça sert à l'histoire ou non? C'est juste comme la curiosité morbide. Mais même le coroner, lui, il a demandé à ce que les photos et les détails soient rendus publics pour que justement la société, le public, soit au courant de la gravité des choses. Et je pense que je suis assez d'accord avec lui. Je vais vous montrer des images, mais encore là, c'est probablement l'une des choses les plus dégueulasses que j'ai vues. On voit même un peu l'état du corps de Lacey. Je suis jamais d'accord à montrer les corps là, quand c'est pas nécessaire, mais là, je pense que c'est nécessaire pour qu'on comprenne la gravité des actes qui ont été posés. Et peut-être pour nous conscientiser. En tout cas, on va revenir plus tard. Lacey Fletcher, elle a enduré l'horreur pendant plusieurs années. Fait que je pense que nous, on est capable d'endurer une vidéo où les détails sont un peu dégoûtants. Quand les policiers sont arrivés sur place, ça a été vraiment un choc pour tout le monde qui était présent. C'est le genre de scène d'horreur que même dans tes pires cauchemars, tu peux pas t'imaginer. Lacey a été retrouvée sans vie, littéralement collée au sofa. Pour vous décrire un peu là, dans quelle position elle était, position très inconfortable, elle était comme engloutie par le sofa parce que dans le sofa, il y avait un gros trou usé par les années. T'sais, si tu t'assois sur un sofa pendant 16 ans, c'est sûr ça va s'user en dessous, le tissu, même la rembourrure. Fait qu'il y avait un gros trou dans le sofa, puis Lacey était comme coincée un peu dans le trou. Elle était couchée sur le côté gauche. Encore une fois, là, tout comme le haut de son corps englouti dans le trou. Et elle était partiellement nue. Elle avait juste un t-shirt bleu qui était relevé, laissant sa poitrine visible et ses jambes étaient croisées. Ses yeux étaient encore grand ouverts, le regard évidemment sans vie. Sa bouche aussi était grande ouverte et on pouvait juste voir toutes ses dents d'en haut. Le visage de Lacey était couvert de grosses plaques rouges et elle avait des excréments partout sur son corps. C'était majoritairement des matières fécales fraîches, mais il y en avait aussi des vieilles qui étaient comme croûtées partout dans son visage, sur son ventre, sur ses membres, sur sa poitrine, dans ses cheveux. C'est horrible. Et comme j'ai dit, il y avait énormément de matières fécales d'accumuler sous son corps. Vous allez voir, ben, vous regardez sur les photos. Mais aussi, il y en avait énormément dans ses cheveux, dans ses oreilles. Et ses cheveux étaient tellement mêlés, justement, avec des excréments, que ça faisait comme des nids là, dans ses cheveux, tellement que c'était mêlé comme des... Ouais, des nids, puis ça faisait des boules de cheveux durs. Là. J'imagine, vous avez déjà vu ça. Là. C'était... En anglais, ils disent « matted », donc c'était vraiment tout entremêlé. Son cuir chevelu, évidemment, là, il était tout croûté, il était rouge, ça devait vraiment lui faire mal. Mais écoutez ça, en plus des matières fécales dans ses cheveux, il y avait aussi des larves vivantes. En fait, il y avait des larves vivantes partout sur son corps. Et c'était pas juste depuis qu'elle était morte, là. Les larves étaient présentes pendant longtemps avant ça.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ben voyons donc que tu laisses ta fille dans un état comme ça. Là. Donc, elle avait des larves dans les blessures et les plaies sur son corps, mais aussi dans ses parties génitales. Là. Puis il y avait même quelques œufs de larves dans ses yeux, dans ses oreilles et dans son nez. Les ongles de ses doigts et de ses orteils étaient super longs, sales. En fait, il y avait des matières fécales en dessous. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle devait être terriblement souffrante parce que son corps au complet comportait des ulcères de pression, donc des escarres, plus communément appelées évidemment des plaies de lit, ce qui apparemment là est terriblement souffrant. Mais elle en avait partout. Elle souffrait aussi d'infections aux os à cause des fibres, là, des tissus du sofa. Parce que si elle avait des plaies ouvertes, ben ça s'est infecté, puis ça s'est même rendu jusqu'à ses os. Fait que, imaginez-vous la douleur dans laquelle elle était. Lacey avait souffert de négligence chronique sévère et de malnutrition et de famine accrue. Autrement dit, ben elle devait pas manger beaucoup. Apparemment que quand Lacey a été découverte, ça faisait déjà 48 heures qu'elle était morte, mais ses parents s'en étaient pas rendus compte. Quand les parents sont arrivés sur place, le père, Clay, était comme debout dans la cuisine, silencieux, sans émotion, tandis que Sheila était juste assise sur une jambe, la tête entre les genoux, là, et elle pleurait un peu. Et écoutez bien ce que le coroner raconte sur son arrivée sur la scène de crime. C'est très troublant, je vais le laisser le raconter lui-même.
When I got there, the officers, the first responders on scene were just in a daze. They were just standing there. They were on the outside. When I walked in, the house smelled of a stench of, it smelled like a sewer, a septic tank, and also a smell of death. I've never smelled that in my life. I've dealt with decomposed bodies. I've dealt with all sorts of death, degradation, whatever. Never experienced this in all of my career. It still bothers me today. And like I said, I've seen every kind of death there is. I've seen elderly people die of natural causes. I've seen suicides, homicides. I've seen everything there is. I've never seen a homicide like this. I have never seen an individual, a human being, literally tortured and allowed to die while she is alive. I've never seen that in my life. I've seen decomposed bodies of someone that drowns. You find the body a week later. That's one thing, and they're decomposed. Lacey did not decompose. She rotted in her own body in that hole, in that sewer, in the couch.
Au moment de sa mort, elle pesait 96 livres, donc environ 43 kilos. Elle est morte carrément de pourriture, là, je sais pas comment le dire autrement. Au départ, les parents ont dit que leur fille souffrait du locked-in syndrome, donc le syndrome de l'enfermement. Donc t'es comme prisonnier un peu de ton corps, t'es paralysé, mais dans ta tête, t'es vraiment toute là. Et très vite, les médias ont repris ce fait-là en disant que oui, Lacey, elle souffrait du syndrome d'enfermement. Alors que c'est totalement faux, mais les médias n'ont jamais vraiment rectifié le tir là, pour dire que c'était faux. Donc, juste pour vous donner une définition, là, le syndrome d'enfermement, c'est un état neurologique où la personne est réveillée, 100% consciente, mais elle peut pas parler ni bouger, elle est complètement paralysée. C'est vraiment horrible comme maladie, et de ce que j'ai lu, c'est assez rare. Mais le coroner, après avoir fait l'autopsie, lui a complètement nié ça. Il a dit que Lacey ne souffrait pas du syndrome de l'enfermement du tout. Ses seuls diagnostics officiels, c'était vraiment l'anxiété sociale sévère et l'autisme. That's it. Et effectivement, Lacey était capable de manger sans l'aide de ses parents. Donc oui, ses parents lui servaient des plats, mais elle était capable ensuite d'y manger. Si elle était paralysée, elle serait pas capable de faire ça. Ses parents ont dit que la veille de sa mort, ils lui ont donné des Cheerios et des sandwichs, ce qui est faux parce que ça n'a pas été retrouvé dans son estomac. En fait, dans son estomac, on a retrouvé des morceaux de sofa et ses propres selles. C'est épouvantable parce que là, Lacey devait être rendue à un stade qu'elle avait tellement faim que son corps, pour survivre, probablement qu'attrapait tout ce qu'il avait à sa portée et elle mangeait justement des morceaux de rembourrure de sofa comme pour survivre carrément. Évidemment, quand tout ça est sorti dans les nouvelles, ça a été un choc pour tout le monde. Tu sais, comment un couple normal, bon, qui semble normal, peut faire ça à sa propre fille?
Shocked. Very surprised. I just never, I thought, you know, I just never thought that anything, you know, like that would happen here, you know?
The details are horrific. There's no doubt about that. And I can't conceive of how something like that could even happen. Shock, you know, because it doesn't match with my experience of him. He's completely different than what you would expect someone like that to be.
Et ça faisait 12 ans que Lacey était clouée sur son sofa. Clouée, pas littéralement, mais qui était collée sur son sofa, qu'elle n'avait pas bougé de là. Et les collègues du père, quand ils ont appris ça, ils savaient même pas que Clay avait un enfant.
He mentioned that she passed away in January, and that was all I know of that.
Quand les collègues du père ont appris ça, ils en revenaient pas. Ils trouvaient pas que justement Clay avait l'air d'un gars qui pouvait faire vivre ça à sa fille. Et il y a plusieurs amis du couple là, de Sheila et Clay qui savaient même pas qui avait un enfant. Puis tu sais, ce qui est le plus frustrant dans ça, là, c'est que ça restait un couple quand même qui semblait gentil. Ils aidaient beaucoup leurs proches, leur rendaient service. Évidemment, ils allaient à l'église à chaque dimanche, ce qui est complètement ironique. Ils étaient décrits même comme étant des piliers de leur communauté. Genre, regardez cette photo de Noël, là. On voit le couple devant un sapin de Noël pendant que leur fille est littéralement couchée dans sa marde sur le sofa à côté. Puis on voit même le sofa là, sur la photo de Noël. Puis là, je me demandais c'est qui a pris la photo, mais sûrement qu'ils ont mis comme un timer. Parce que si quelqu'un d'autre a pris la photo, ça implique que quelqu'un d'autre est rentré dans la maison puis a vu l'état de Lacey. Mais je pense qu'ils ont peut-être juste accoté la caméra sur quelque chose puis ont pris la photo. Mais tu sais, c'est assez fou là, de prendre une photo genre on est une belle famille, tout va bien, tandis que leur fille est genre paralysée à côté. Quand Lacey est morte, Sheila a même écrit sur Facebook « Maman et papa t'aimons tellement ». C'est-tu assez fou, la performance, tu sais? Mais le pire, là, moi, qui m'a complètement choquée, c'est quand j'ai lu que Sheila était une assistante du procureur, mais aussi qu'elle avait déjà travaillé comme policière dans la ville voisine, la ville de Baker. Fait que c'est une ancienne policière puis une assistante procureure. Premièrement, c'est une femme intelligente là, qui a de l'éducation. Mais deuxièmement, elle connaît les règles. Puis être policier, c'est une vocation. C'est supposé en être une, du moins. Tu veux aider les gens, tu veux faire du bien autour de toi. C'est vraiment rarement ça, mais il y en a des bons policiers, là. Mais moi, je me demande vraiment comment ils ont supporté l'odeur toutes ces années. Ça devait... J'ose même pas m'imaginer c'était comment. Apparemment que leur maison était super propre. Là. Quand les policiers sont allés, c'était extrêmement propre. Et même eux, le couple, apparemment qu'ils avaient une très bonne hygiène. L'odeur était tellement infecte qu'après ça, les policiers, là, pendant le reste de la semaine, peut-être même plus, ils étaient pas capables de manger. Incapable, il n'y a rien qui rentrait parce que l'odeur les avait... Tu sais, quand tu sens une mauvaise odeur, là, puis une odeur aussi troublante là, qui vient avec un contexte, j'ai l'impression que ça te reste vraiment dans le nez. Tu le sens là, même plusieurs jours après. Fait qu'imaginez vivre ça, voir toute la scène d'horreur. Tu dois, là, en tout cas, être traumatisé. Moi, j'imagine que les parents devaient s'être habitués à cette odeur-là. Mais même les voisins, je me demande, tu sais, quand il y a, par exemple, là, un corps en décomposition dans une maison, dans un appartement, si ça fait longtemps, les voisins vont se mettre à le sentir. Là, on parle d'un corps en décomposition qui était encore vivant, mais il se décomposait, des plaies ouvertes, de l'urine, des matières fécales, pas nettoyées pendant plusieurs années. Arc! Bref, au mois de mai 2022, les Fletcher ont finalement été arrêtés et chargés pour le meurtre au second degré de leur fille, Lacey. Mais finalement, donc il y a un mois, le 6 février 2024, leur charge a été réduite à homicide involontaire. Après qu'ils aient plaidé non coupable pour meurtre au second degré, ils ont plaidé coupable pour homicide involontaire. L'avocate des parents a fait une déclaration à l'extérieur du palais de justice et je cite « Ils aimaient leur fille à mort et ils ont énormément de regrets de ce qui s'est passé. » Finalement, tu sais, j'ai fait mes recherches, ça fait quand même un bout de temps, mais j'avais mis dans mon agenda parce qu'ils allaient recevoir leur charge hier. Je suis tout de suite allée voir juste pour avoir une conclusion là, à cette histoire-là. Le 21 mars 2024, là. Mais là, vous allez voir la vidéo quelques... semaine plus tard, mais quand même, le 21 mars 2024, Sheila et Clay Fletcher ont chacun reçu une sentence de 40 ans de prison, mais il y a 20 ans qui ont été suspendus, donc ça donne 20 ans de prison chacun. Et c'est fou cette histoire-là, parce que, tu sais, quand ils ont été envoyés en prison, il y avait une caution à payer, là, d'après moi, $1 million, quelque chose comme ça. Puis les parents l'ont payé pour pas rester en prison. Puis je trouve ça complètement fou. C'est ironique ça parce qu'eux, ils n'étaient pas capables de supporter la prison. Ils ont préféré payer plusieurs milliers de dollars alors que leur fille était carrément prisonnière d'elle-même. Puis ils ont supporté ça pendant plusieurs années. Mais aussi, s'ils ont été capables de payer autant d'argent pour leur caution, c'était clairement un couple qui en avait de l'argent. Pourquoi ils n'ont pas placé leur fille dans un centre spécialisé? Pourquoi aussi ils n'ont pas engagé une infirmière à domicile? T'sais? Pourquoi ils n'ont pas payé les meilleurs services pour améliorer la situation de leur fille? Il n'y a rien à comprendre. Puis je sais pas comment, en tant que parent, ou même en tant qu'humain, tu te rends là à supporter la douleur puis la misère humaine à ce point-là. J'imagine que tu dois atteindre un niveau que t'es vraiment dans le déni puis complètement déconnecté de la réalité. Puis ça doit pas, même pas être des mauvaises personnes à la base. Puis là, je sais que je vais peut-être me faire lancer des roches pour dire ça, mais à la base, ces gens-là, je pense même pas qu'ils aimaient pas leur fille, puis je pense pas que c'est des mauvaises personnes, puis c'est pas des personnes dangereuses, mais ils ont atteint un niveau qui est difficile à comprendre, là. Ce qu'ils ont fait, c'est un geste dégueulasse. C'est dégueulasse, il y a pas d'autre mot. Mais à la base, je pense pas qu'ils rêvaient de faire ça. T'sais, je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que leur fille meure dans une situation comme ça. Mais ils doivent avoir une genre de part de... Je sais pas si je m'en foutisme ou je sais pas. Mais si vous avez des étudiants en psycho, des psychologues, peut-être vous pouvez m'expliquer dans les commentaires comment un humain se rend là. Mais c'est genre pas une folie à deux, mais t'sais, clairement les deux étaient complices, puis peut-être qu'ils s'encourageaient là-dedans ou ils se dédouanaient de ça, puis ils dédramatisaient la situation. Je sais pas, Mais c'est vraiment une histoire troublante puis qui amène beaucoup de questions. Voilà pour cette affaire. On va se voir dans deux semaines pour un Victoria en studio aussi assez incroyable. Fait que la semaine prochaine, j'ai off. Puis on se voit là, la semaine d'après. Merci d'avoir été là. Gardez l'œil ouvert. C'est important, garder l'œil ouvert. On connaît pas nos voisins. Puis c'est important d'être alerte. Tu sais, si la petite voisine de 14 ans disparaît du jour au lendemain, t'as vois plus. Peut-être qu'on peut se poser des questions. Peut-être appeler la DPJ ou la police même pour faire un genre de welfare check. Là. C'est ça. Gardez l'œil ouvert, c'est la meilleure parole que je peux vous dire. Puis j'espère que vous êtes un peu conscientisés à cette histoire-là, à cette situation-là. Puis voilà. Over and out.